Et à tous. Déjà, merci, merci de l'invitation. Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous. Je pourrais dire que le SNUPDEN et le SNEP sont quelque part intimement liés. Intimement liés de part déjà ce qu'on défend communément, mais aussi parce que, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est le syndicat qui nous accueille à Paris pour tous nos bureaux nationaux. Et par exemple, on se retrouve mercredi prochain. Encore au SNEP rue des Rondeaux pour pouvoir travailler ensemble après notre congrès, sachant que il y a des enjeux fondamentaux. On va avoir l'occasion d'en parler. Hein. Vous êtes en congrès pour une séance de, enfin, 2 jours de travail. C'est vrai que c'est pas un stage. Il va falloir que vous réfléchissiez, que vous travailliez pour être source d'autres propositions que celles qui sont faites. Sachant qu'on est dans une période électorale et que, à l'occasion de cette période électorale, il y a des propositions qui émergent et qui sont celles d'une, j'allais dire, d'une économie néolibérale. Mais c'est un petit peu ça.
Excuse-moi. Est-ce que vous entendez bien là-bas? Ouais. Sinon, on peut vous demander un micro éventuellement. Ou...
Non, mais moi, pour moi, ça va. Si vous m'entendez, c'est bien. Et en fait, ce qu'on voit poindre, c'est l'idée d'une transformation majeure du fonctionnement des établissements et du fonctionnement de l'école. Malheureusement, cette transformation, elle n'émane pas que de la droite, si je puis dire. Je vous donnerai des exemples très précis, que des candidats de droite. Et en particulier, c'est pour ça que je suis là aussi ce matin, parce que Hugo m'a demandé de faire une intervention sur l'autonomie des établissements. Et ça a été, nous, dans un des points cruciaux de notre réflexion de congrès, que cette autonomie des établissements, qu'est-ce qu'on en veut, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est l'autonomie de l'établissement ou est-ce que c'est l'autonomie des chefs d'établissement? Quelle est la part de l'autonomie et de la démocratie? Le nouveau management public là-dedans, où il se situe? Ça, l'ensemble de ces points, ça fait pour nous, comment dire, ces sources de réflexion, parce que c'est au cœur de la pratique de nos métiers et c'est au cœur de l'idée que le SNUPDEN défend. Le SNUPDEN défend le fait que nous voudrions, mais on est ultra minoritaire, je crois qu'on en reparle peut-être, je commence déjà. Moi, quand on me donne la parole, le problème c'est que après j'ai du mal à la lâcher. Ouais, je vais peut-être m'arrêter là, puis je commencerai. Enfin, en tout cas, merci. Merci de m'inviter.
C'est déjà un peu commencé, effectivement.
Tout à fait. Et puis dès qu'on commence, je vous dirai les fondements de ce qui risque de se passer et ce que les uns et les autres disent, ce que nous, on est amenés à porter comme valeur et comme idée d'un autre fonctionnement des établissements. Et puis, comment est-ce qu'avec vous, on va pouvoir faire en sorte que ça puisse fonctionner. Par contre, il y a un point sur lequel Hugo n'a... Enfin, il y a un point sur lequel moi j'aimerais aussi intervenir qui n'a rien à voir avec l'autonomie et encore que, on pourrait en parler aussi. C'est le sport scolaire. Tout à fait.
Je t'ai vu venir.
Et oui, et donc j'en parlerai parce qu'il y a là aussi il y a des choses qui sont importantes et graves et je pense que votre congrès il sera sûrement amené à faire des propositions ou en tout cas à défendre l'idée que le sport scolaire faut pas qu'il disparaisse. Et pour pas qu'il disparaisse, il y a un certain nombre de choses à faire et à revendiquer. Donc, j'en parlerai aussi.
Très bien. De toute façon, je pense que tu as déjà un peu engagé, donc si tu veux poursuivre.
On y va ?
On y va.
Alors, par contre, avant de commencer, je voudrais vous poser des questions. Je voudrais savoir quels sont ceux, parce que je vous connais pas tous et toutes. Donc, quels sont ceux qui viennent du 93 ? Ils sont tous mis sur le côté. Du 94 et du 77. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bon, ok. Bonjour à toutes et tous. Je suis donc Éric Mansincal, je suis chef d'établissement, je suis proviseur du lycée Thibault de Champagne de Provins, donc dans le 77, puis au fin fond du 77.
Puni.
Voilà, du côté de trois autres départements, donc vraiment très loin d'ici. Mais je suis là, non pas parce que je suis chef d'établissement, proviseur, mais c'est parce que je suis syndicaliste. Et donc la parole que je porterai, c'est celle d'un syndicaliste, bien évidemment. Donc tout ce que je dirai pourra être retenu contre moi sans aucun problème. J'assume la totalité de ce que je vais vous dire. Je suis secrétaire général adjoint du SNUPDEN et secrétaire académique du SNUPDEN, qui est un syndicat de chefs d'établissement de la FSU, mais qui est, c'est très très important que vous le sachiez, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes minoritaires, et même ultra minoritaires dans la profession. Donc il y a le plus grand syndicat des chefs d'établissement, c'est le SNPDEL, UNSA. J'en reparlerai tout à l'heure avec des positions de son secrétaire général sur l'autonomie, puisque c'est ça qui nous intéresse. Ensuite, il y a un syndicat qui s'appelle ID et qui est passé à FO. Donc, c'était auparavant un regroupement, c'était une amicale de chefs d'établissement qui ne se reconnaissaient pas dans le SNPDEL. Donc ils sont partis aux avant-dernières élections avec le SNALC. Puis ensuite, ils sont partis à FO. Voilà. Donc c'est le deuxième syndicat de chefs d'établissement. Ensuite, il y a le SGEN, CFDT. Les anciens pédagogues qui sont devenus chefs d'établissement vont vers le SGEN. Et puis ensuite, il y a le SNUPDEN, notre syndicat. Notre syndicat qui représente, donc je disais, peu de gens. Peu de gens parce que, d'abord, les chefs ne se reconnaissent pas forcément dans ce que je vais vous dire tout à l'heure. Il faut le savoir. Et pourquoi ils ne se reconnaissent pas? Parce que déjà, la formation des chefs, elle est massivement organisée par des pairs. Donc, le SNPDEN, UNSA, trustait avec une politique mafieuse, je pèse mes mots, et donc trustait la formation des chefs d'établissement en donc ne faisant appliquer que les méthodes qu'il voulait qu'ils soient mises en place à l'intérieur des établissements. Et nous, au niveau du SNUPDEN, on était interdits de formation. Il faut que vous le sachiez, ça aussi. Alors, on a revendiqué, hein, bien évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le passé, on a été interdit de se présenter aux élections. On est un peu les empêcheurs de tourner en rond. Demain, il y a une audience libre au tribunal administratif de Melun, puisque j'ai fait un recours au tribunal administratif pour annuler les élections professionnelles pour des tricheries majeures du SNPDEN aux élections professionnelles. Donc, bien évidemment, sur trois éléments. Hein. Premièrement, le bulletin électoral produit par le SNPDEN était un faux, puisqu'un chef d'établissement n'avait pas mis sa bonne adresse, l'établissement dans lequel il travaillait, pour des raisons qu'on ignore. Mais en tout cas, personne ne me fera croire qu'un chef d'établissement ne sait pas dans quel établissement il bosse. Deuxièmement, la règle aux élections professionnelles était que on ne devait pas communiquer sur les boîtes mail administratives, sauf celles qui étaient encadrées, et donc le SNPDEN l'a fait allègrement. Et la troisième raison, c'est que le SNPDEN a fait paraître une plaquette dans le cadre de ces élections, où il y avait des photos de militants entourés d'un certain nombre de personnalités, dont des inspecteurs généraux et la vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Donc celle-ci a écrit au SNPDEN pour leur dire qu'il était scandaleux qu'ils aient utilisé son image sans son autorisation, et qu'elle ne cautionnait pas le fait d'être dans un appel à voter pour ce syndicat, ce seul syndicat-là, et qu'elle demandait que soit publiée sa totale réprobation. Et bien évidemment, ils ne l'ont pas fait. Donc du coup, bien évidemment, vous imaginez qu'avec le rectorat, le SNUPDEN est fessu, et moi en particulier, on n'a pas forcément de très très bons rapports, puisque donc on a fait ce recours devant le tribunal administratif, et on va voir demain ce qu'il en est, sachant qu'on demande l'annulation des élections, l'annulation de toutes les décisions qui ont été prises par l'ACAPA, et des dommages et intérêts, bien évidemment, puisque du coup, nous sommes victimes, le SNUPDEN, des magouilles du SNPDEN. Alors là-dessus, le SNPDEN y répond hein, au tribunal administratif, puisqu'il y a eu toute une enquête, hein, ça fait pas mal de temps que ça dure. Le SNPDEN dit bah oui, on s'est trompé hein, sur le bulletin électoral, mais il appartenait à l'administration de vérifier. Et effectivement, le rectorat, comme ça vient du SNPDEN, ils prennent directement sans vérifier. Deuxièmement, oui, on a triché, mais on remarque qu'on n'est pas les seuls. Bon, ils ne nous visent pas, hein, mais c'est comme les mômes dans la cour de récréation. Hein. Ouais, on a triché, mais on n'est pas les seuls. Donc ça, là-dessus, je pense que le tribunal dira ce qu'il a à dire. Et puis, globalement, sur la troisième partie, il dit on a tellement gagné avec un tel pourcentage de voix que de toute façon, ça n'a pas eu d'effet, notre campagne électorale, avec les personnalités dont on n'avait pas l'autorisation d'utiliser les photos. Donc on verra demain ce qu'il en est. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a collusion entre le SNPDEN et l'éducation nationale en général, et puis les autorités académiques en particulier. Notre syndicat a demandé à ce qu'il soit appliqué la circulaire Matringe, c'était une ancienne DRH qui est décédée déjà, enfin qui est décédée depuis, dans laquelle il était demandé au recteur de faire des appels d'offres pour que les chefs d'établissement puissent dire qu'ils étaient volontaires pour faire de la formation. Et ensuite, il appartenait au recteur et aux rectrices de choisir. Bien évidemment, sur Créteil, ça ne s'est jamais fait. Jusqu'à ce que ça pète de tous les côtés. C'est-à-dire que la rectrice s'est bien rendue compte à un moment donné qu'on avait une multiplicité de conflits dans les établissements. Et ça, dans tous les départements, que ce soit 94, 93 ou 77, ça a été saignant. On a des pratiques qui sont développées par le SNPDEN, hein, je le dis bien. Il n'y a pas simplement que... Là, en ce moment, on est plein sur les DHG, par exemple. Eh bien, si votre chef d'établissement ne fait pas voter la DAG, ne passe pas la DAG au niveau du conseil d'administration, vous pouvez être sûr qu'il a, entre guillemets, sa carte au SNPDEN. Mais c'est sûr. Qu'est-ce que nous, on développe au niveau du SNUPDEN? On développe une idée, pas une grande révolution. On développe l'idée que le fonctionnement des établissements ira d'autant mieux que la démocratie est respectée. Ça veut dire quoi? Globalement, on dit... Il suffit de regarder ce qui se passe dans les différents pays. La dictature, c'est simple, mais c'est d'une simplicité évidente. Je suis le dictateur, je tue les opposants, donc tout le monde autour de moi est d'accord avec moi. Ça, c'est la dictature. La démocratie, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on écoute, qu'on soit attentif aux propositions qui ne sont pas les nôtres, les miennes. Il va falloir qu'à un moment donné, on puisse se dire, mais peut-être que les gens qui sont autour de moi et qui sont avec moi dans mon établissement, ils ont peut-être des propositions à faire auxquelles je n'ai pas pensé. Il faut peut-être qu'ils comprennent également comment un établissement fonctionne. Il faut qu'on les associe. Il va falloir qu'ils discutent entre eux. Bref, il va falloir que la démocratie... Elles vivent. Ça ne va pas être simple, comme le passage de la dictature à la démocratie. Mais globalement, ce qu'on a observé ces 5 dernières années, c'est qu'il y avait une fracture extrêmement importante entre les équipes, et quand je dis les équipes, c'est les équipes tout confondues, de tous les personnels, pas simplement les enseignants, mais également les personnels administratifs, et les athos et les chefs d'établissement. Ces fractures, elles ont lieu majoritairement à l'occasion de deux événements particuliers. Premièrement, à l'occasion de problèmes qui peuvent se situer autour de ce que j'appellerais la problématique des conseils de discipline. Il y a un événement grave qui se passe dans un établissement et les enseignants ne reconnaissent pas la décision du chef d'établissement. La légitimité d'un chef d'établissement, elle vient d'où ? Un, elle vient de son titre. Il arrive, personne ne le connaît, il ou elle, c'est le chef. Il est légitimé par l'institution. Deuxièmement, la légitimité du chef ou de la chef vient par son travail. Si on a un chef qui est légitimé mais qui ne met jamais les pieds dans son bahut, ou qui arrive à 9h et qui part à 4h, il ne va pas pouvoir faire le boulot. Donc globalement, ce chef d'établissement va perdre sa légitimité. Troisième légitimité, et le pouvoir entre guillemets reconnu du chef, de notre point de vue, il ne peut être que s'il y a les trois conditions réunies. La troisième légitimité, c'est la valeur, les valeurs communes, ce qu'on partage avec l'équipe. Or, les conflits qu'il y a dans les établissements, ils portent sur une fracture sur les valeurs. Cette fracture, elle a lieu pendant au moment des conseils de discipline et au moment des orientations de fin d'année, des décisions du chef d'établissement de fin d'année. Au niveau de ce que j'appelle les conseils de discipline, vous allez avoir à un moment donné un événement dans un bahut. Le chef d'établissement va prendre une décision et là, l'équipe va dire « c'est pas possible que le chef prenne cette position ». J'ai un tas d'exemples qui montrent que la fracture, elle s'opère à ce moment-là. C'est-à-dire, on va dire « mais c'est pas possible ». J'avais un article de journal, par exemple, où il y avait une grève dans un établissement parce qu'il y avait un élève qui était rentré dans un bahut avec un revolver. Le chef d'établissement fait un conseil de discipline, il y a le conseil de discipline qui passe, et puis le gamin, il est exclu avec sursis. C'est-à-dire que le lendemain, et les profs ne sont pas d'accord. Bon. Mais encore heureux qu'ils ne sont pas d'accord. Il manquerait plus que ça encore qu'on rentre dans les bahuts avec un flingue et qu'on revienne le lendemain dans le bahut. Alors, pourquoi le chef il a pris cette décision ? Je ne vais pas développer parce que ce n'est pas le thème là. Mais on voit bien que là, il y a une fracture. La décision qu'à un moment donné a été amenée à être prise fait que l'ensemble de la communauté ne se reconnaît pas dans la décision du chef. Même chose, il ne se reconnaît pas parce que on juge que le chef d'établissement, il ne défend pas le fonctionnement de son établissement. Même chose, vers la fin de l'année, tous ceux qui sont en collège... Il y a combien de personnes dans les collèges, là ? Ok, très bien, baissez vos mains, merci. Fin de l'année, je vous donne un exemple qui va faire sens. Vous êtes tous en conseil de classe. Vous avez le petit machin ou la petite machine. Elle a 9 de moyenne en 3e. Avec 18 en EPS, forcément, grâce à vous, 18 en EPS, 19 en arts plastiques, 17 en éducation musicale, et puis on va dire 15 en techno, 2 en français, 3 en maths. Et vous avez le chef qui dit « seconde GT ». Et là, vous dites « attendez, là on l'envoie au casse-pipe. On l'envoie au casse-pipe, la gamine. » Parce qu'elle ne s'en sortira jamais en seconde. Et là, vous avez le chef qui vous dit « il faut oser la seconde ». Et ça passe en seconde GT, sachant qu'après, il n'y aura plus de redoublement en seconde et que de façon de la môme, elle va se faire 3 ans au lycée, elle va louper son bac, elle redoublera sa terminale et elle n'aura pas son bac au bout de la 4e année. Et là, vous vous dites comment le chef, il peut prendre cette décision, sachant qu'il sait parfaitement, et tout le conseil de classe le dit, on l'envoie au casse-pipe. Ça me fait penser à un exemple du week-end. Il y a un gamin à Vitry qui est décédé sous le coup de son père. Alors, moi j'ai un texto de mon fils parce que c'était un de ses anciens élèves. Et je dis à ma femme, je suis sûr que celui-là, il ne devait pas aller en seconde. Et je suis sûr que le chef, il a forcé à aller en seconde. Et j'ai reçu un autre texto de mon fils qui disait, finalement, pas tout à fait la même analyse que moi, il disait c'est les parents qui avaient forcé pour le passage en seconde alors que le professeur principal envisageait un CAP pour le gamin, etc., en CFA. Et en fait, le môme, il ne s'est pas retrouvé en seconde. Et forcément, comme il ne pouvait plus bosser, il ne venait plus. Et comme il ne venait plus, son beau-père l'a tabassé et donc il est décédé pendant le week-end. Bref, les personnels ne reconnaissent plus leur chef parce que, au niveau des valeurs, ils ne se retrouvent pas dans ce que le chef défend. Et il y a une multiplicité de conflits dans les établissements. Et à un moment donné, la rectrice, lors d'une rencontre, nous a dit « Ok, banco, maintenant le SNUPDEN, vous allez faire partie de la formation des chefs. » Et donc, on rentre dans la formation des chefs depuis cette année pour montrer qu'il y a un autre mode de fonctionnement possible dans les établissements que celui de la dictature. Même chose sur Lille, l'Académie de Lille, le responsable de la formation est maintenant un responsable SNUPDEN. C'est-à-dire que finalement la rectrice, elle comprend que ça peut fonctionner différemment que le modèle construit entre guillemets avec l'accord du SNPDEN, c'est-à-dire un modèle descendant. On en arrive au cœur des problématiques. L'autonomie des établissements et la démocratie dans les établissements. En ce qui concerne la démocratie, ce que nous on dit, c'est que pour qu'un établissement, on ne peut pas, déjà on va commencer comme ça, on ne peut pas calquer le fonctionnement d'un EPLE sur le fonctionnement d'une entreprise. Ce serait une erreur fondamentale. Si je prends l'exemple de la SNECMA, Safran, Villaroche, Seine-et-Marne, vous avez personne qui se pointe, le gars qui monte son réacteur, il se pointe, il n'achète pas à Leroy Merlin son tournevis. Il arrive, on lui donne ses outils, on le forme, on lui donne ses outils et on lui dit tu vas faire telle chose. Puis ensuite, il va y avoir des contrôles qualité, etc. Et donc, il va devoir faire son réacteur ou tant de réacteurs dans son année. Un prof, c'est pas pareil. Déjà, le prof, lui, c'est lui qui vient avec ses outils et qui est le maître de ses outils. Et le prof, il sera d'autant plus efficace qu'il sera partie prenante dans ce qu'il fait. Je n'ai jamais vu, et je commence à être quand même un peu âgé, un prof en échec qui fasse réussir ses élèves. Ou un prof malheureux qui rende ses élèves heureux. Ou un prof qui arrive à faire passer un message de manière obligée. Le but du chef, ça va être à un moment donné de faire comprendre les décisions qu'il prend. Quelle est la différence entre les vieux chefs et les anciens? Les nouveaux. Les nouveaux sont redoutables. Les nouveaux sont redoutables. Ils sont beaucoup plus, entre guillemets, pernicieux que les vieux. Alors ça s'explique, je ne vais pas avoir le temps de vous l'expliquer, mais ça s'explique par la volonté de faire carrière et la nécessité d'obéir aux prescriptions. Et notamment et de remplir les missions pour lesquelles il est rémunéré. Le vieux, entre guillemets, Les vieux chefs, qu'est-ce qu'on disait ? D'abord, c'est un chef. Bon, ok. Au-delà de ça, un chef, un patron. Mais, globalement, on peut compter sur lui. Il nous défend, si jamais il y a des soucis. Et puis, à un moment donné, il prend des décisions parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les prenne. Globalement, c'est à ça qu'on reconnaissait un ancien chef. Et on allait le voir à un moment donné, le chef, pour qu'il arbitre. Comment est-ce que le chef, par exemple dans les moments de DHG comme ça, comment est-ce qu'il fait le chef ? Eh bien, il va expliquer à un moment donné les choix qu'il est amené à faire. Ou ça fait consensus, ou ça ne fait pas, mais en tout cas, il va expliquer. À partir du moment où on ne passe pas la DHG en conseil d'administration, où est-ce qu'il y a discussion ? Quand est-ce que le chef il explique ce qui se passe, la ventilation des heures qu'il a prévues ? Qui a revendiqué le fait de ne plus passer les DHG au conseil d'administration ? Le SNPDEN. Pourquoi ? Mais parce que le conseil d'administration, avec les représentants des personnels que vous êtes, c'est source de conflits, de tensions. Parce qu'à un moment donné, les gens qui sont là vont dire « Mais attendez, on n'est pas d'accord avec vous. Nous, en termes de moyens, on en voudrait plus. » Et puis, les propositions que vous avez faites, elles ne nous conviennent pas. La démocratie, c'est d'un moment être en capacité d'écouter des propositions qui sont différentes, de s'entendre dire que les décisions qu'on prend ne sont pas les bonnes décisions, et puis de voir qu'il peut y en avoir d'autres aussi. Moi, j'ai l'habitude de le dire dans différents endroits de France où je vais pour faire des conférences avec la FSU et plus avec le SNEP, mais que le conseil d'administration, il peut proposer une DHG. Il peut proposer sa propre DHG. Mais à condition d'utiliser les moyens démocratiques. Et vous avez les moyens démocratiques que personne n'utilise. Premièrement, conseil d'administration. Il y a quelqu'un qui me téléphone, là, il n'y a pas tellement longtemps, sur Paris, le chef ne veut pas faire conseil d'administration. Comment on peut faire ? Je dis, attendez, il y a une règle. Il suffit qu'il y ait 2/3 des membres du conseil d'administration qui exigent de faire un conseil d'administration. Vous vous réunissez avec les parents, les élèves, et puis vous demandez en chef, vous faites un papier, vous demandez à la réunion d'un conseil d'administration. Premièrement. Deuxièmement, c'est vous qui fixez l'ordre du jour. Et vous mettez à l'ordre du jour présentation de la DHG. Le chef en commission permanente propose une DHG qui ne convient pas. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas content. Et au conseil d'administration suivant, vous modifiez l'ordre du jour. Vous ne votez pas celui qu'on vous donne. Vous demandez une modification de l'ordre du jour. Vous présentez votre DHG d'abord. Vous la faites voter. Le chef d'établissement ne peut plus proposer la sienne. Il est obligé d'appliquer la DHG qui est votée. C'est ça la démocratie. Je ne dis pas que la mienne est la meilleure. Je dis que la meilleure doit être votée. Si celle du chef n'est pas bonne, à vous d'en proposer une autre. C'est ça la démocratie. Alors, ce n'est pas facile. Vous allez vous friter avec vos collègues. Vous allez être confronté à la guerre des disciplines. Bien sûr. Parce que chacun va vouloir tirer la couverture à lui. Mais la démocratie, c'est ça. Je propose l'intervention, puis après, note bien les questions et j'y répondrai. Je promets que je répondrai à toutes vos questions. Qu'est-ce qu'il en est de l'autonomie ? Autonomie et démocratie, c'est pas pareil. Sur l'autonomie, autour de la table, on est certain d'avoir des enfants. On veut qu'ils soient autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire être autonome pour nos enfants ? Ça veut dire qu'à un moment donné, ils puissent être en position de faire des choix, mais des vrais choix, pas des choix contraints. Si l'autonomie de mon fils, c'est de choisir entre manger des pâtes, des nouilles, des spaghettis, quel est ce choix ? Là, c'est le minimum vital. L'autonomie, c'est ce qui va au-delà du minimum vital. Si je fais je fais un parallèle avec un établissement. Ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire ? Ça veut dire qu'il faut donner aux établissements de quoi pouvoir travailler, les moyens obligatoires nationaux par discipline. Ça, c'est le minimum vital. Et puis, il faut donner aux établissements des moyens en heures et des moyens financiers pour faire au-delà du minimum vital, faire du plus. Or, qu'est-ce qui va être proposé au niveau de l'autonomie des établissements ? C'est pas ça. C'est pas cette autonomie-là dont il va s'agir. C'est pas du tout celle-là. Qu'est-ce qui se passe pour l'instant ? Parce qu'il y a de l'autonomie dans les établissements. L'autonomie, elle est depuis 1983 dans les établissements. Concrètement, comment cette autonomie, elle s'opère ? Par exemple, au moment des DSG, je vous parle de ça parce que c'est le moment où on est tous dedans, là. Je prends un exemple dans les collèges du 77, par exemple. Qu'est-ce qui se passe ? Le chef d'établissement, en septembre, il fait remonter ses effectifs. Et l'inspection académique, elle regarde combien il y a d'élèves au niveau des CM2 qui vont passer en 6e. À la suite de ça, ils vont déterminer une structure. Et par rapport à cette structure, ils vont déterminer un certain nombre d'heures. Et puis, ils vont donner toutes ces heures au chef d'établissement. Sans à aucun moment, je dis bien à aucun moment, en faire le détail. C'est-à-dire que le chef d'établissement, il n'aura jamais le nombre de 6e, le nombre de 5e, le nombre de 4e et le nombre de 3e. On lui dit, sous des prétextes d'autonomie, vous avez le package, à vous de vous débrouiller. Et lui, le chef, quand il a son package, sa DSG, son premier travail, ça va être de rechercher ce qu'on lui a, la structure qui a permis à l'IA de faire cette DSG. Il va falloir qu'il retrouve toutes les heures. Et à chaque fois qu'il va téléphoner à l'IA pour demander « Ouais, mais les heures de... Est-ce que vous les avez bien mises ?» On lui dit « Ah, mais c'est dedans, débrouillez-vous. » C'est l'autonomie. Et chaque chef d'établissement se rend compte au fur et à mesure du temps qui passe et des heures qu'il alloue que finalement, il lui manque des heures. Même chose pour les lycées pro. Dans le 93, ça, vous savez ça très bien. Il manque des heures. Il manque des heures pour rassurer les heures obligatoires aux élèves. Et donc, on dit, il appartient au chef d'établissement de faire sa répartition, comme je dis, sous découvert d'autonomie. Pour nous, l'autonomie, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Il faut qu'il y ait des programmes nationaux. Il faut qu'il y ait des heures allouées par discipline de manière nationale. Puis ensuite, il faut qu'on ait des heures en plus pour pouvoir les mettre en fonction des différents projets, en fonction du public, en fonction des spécificités de l'établissement, dans un endroit ou dans un autre. Deux exemples encore sur l'autonomie. Vendredi dernier, j'ai une collègue qui m'appelle, qui me dit « j'ai une section sportive ». Elle vient d'arriver dans le bahut, donc elle dit « j'ai une section sportive et on m'a donné 2 heures ». Ben, je dis « oui, on donne 2 heures pour une... » L'IA, je sais qu'il donne 2 heures pour une section sportive. Elle dit « mais j'en consomme 8 ». Ben, je dis « ben, tu les trouves où tu veux, mais on te donne que 2 ». Et la collègue, elle était complètement éberluée. Deuxième exemple sur l'autonomie. L'année dernière, dans mon établissement, alors je ne dis pas que ce que je fais, c'est bien. Voilà comment je fais. Moi, j'ai ma DSG. La DSG arrive. Première chose, je vais voir mon adjoint. Je dis, voilà la DSG. Troisième chose, on va en salle des profs. On affiche la DSG, premièrement. Deuxièmement, on réunit un conseil pédagogique, on explique ce qu'on a et globalement la structure qu'on va avoir. Deuxièmement, on réunit des conseils d'enseignement. Ça nous prend du temps, mais on réunit des conseils d'enseignement de toutes les disciplines. Et on travaille ensemble pour la répartition de la DSG. Et puis on écoute les besoins. Tout le monde a des besoins et on essaye après de faire les meilleurs choix possibles. Je ne peux pas, là par exemple cette année, moi je n'ai pas pu faire tout ce qu'on me demandait. Mais en tout cas, on a échangé. Puis ensuite, je passe en commission permanente et ensuite, je passe en conseil d'administration. Bref, l'an dernier, on travaille comme ça. Et puis, je suis amené à demander deux BMP, un BMP 18h en anglais et un en maths. Je ne demande pas de création. Je ne demande pas de création parce que je sais, je demande déjà à ce qu'on baisse au niveau de l'effectif, premièrement, parce qu'on est dans mon établissement, c'est une particularité, mais on est plein. On n'a plus de salle à un moment donné pour accueillir. Des fois, on a des profs de libre, des mômes de libre, et puis on n'a pas de salle pour mettre des profs, enfin pour mettre des cours. Donc, ça nous pose d'énormes problèmes. Bon, bref, je demande à avoir moins d'élèves. Et la deuxième chose, c'est que je sais qu'en 2020, il va y avoir une chute des effectifs au niveau des lycées. Parce que là, on est dans le pic des ce qu'on appelait les bébés de l'an 2000, là. Donc il y en a toujours qui sont un peu en avance par rapport aux autres, il y a toujours qui sont un petit peu en retard, il y a toujours ceux qui sont à l'heure, bon bref. Donc on va avoir un pic dans l'année 2020 au niveau des lycées. Donc si on a, un, je demande moins de classes, deux, si on baisse au niveau de l'effectif, je sais bien qu'à un moment donné, mon BMP il va se réduire. Donc je demande pas de création parce que je ne veux pas créer un poste pour en fermer un, dans deux ans. Donc je demande pas de... Excusez-moi. Non. Je demande pas de création de poste et pourtant le rectorat me crée deux postes. Donc le rectorat, lui, pour des besoins d'affichage, il a besoin de dire... eh bien on crée les postes là. Et moi, je sais que je vais les fermer.
Un traquenard.
Forcément, c'est un traquenard, bien sûr. En plus, il y a deux profs qui vont se retrouver après sans poste. Et on me fera porter la responsabilité de ce qui va s'être passé. Puis quand on nous demande de faire des HSA, etc., on dit, on ne peut plus. Vous avez créé des postes là. Mais tout ça, on s'en moque. Ce qui veut dire que l'autonomie aussi, on voit bien comment elle s'opère là. L'autonomie, on s'en sert à partir du moment où ça rend service aux décideurs. Alors, l'autonomie future, qu'est-ce qu'il en est? Il y a des choses qui reviennent sur le devant de la scène. C'est l'idée qu'à un moment donné, un EP, les résultats, alors, ça s'explique, c'est-à-dire qu'on donne des explications pour légitimer la modification profonde du fonctionnement futur des EPLE. On dit, les résultats sont mauvais. Donc, comme les résultats sont mauvais, c'est le fonctionnement qui est mauvais. Donc, on va changer le fonctionnement. Alors, attention, on ne prend pas les bons arguments. On ne dit pas, il n'y a pas suffisamment de profs parce que les profs ne sont pas assez payés et donc ça fonctionne avec des contractuels. Moi, depuis le début de l'année, il me manque un prof de physique, ça, on s'en tape. Hein. Là, on me demandera l'année prochaine, en terminale, que tous les mots misaient le bac. Qu'il n'y ait pas eu de prof depuis le début de l'année, mais on s'en fout complètement. On va dire, il y a un mauvais fonctionnement du bahut. Bref, donc... Comme ça ne marche pas, globalement, il faut chercher pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a des gens qui empêchent que ça fonctionne. Qui empêche que ça fonctionne? Majoritairement, les syndicats. Ce n'est pas une élucubration. Ce que je vous dis, c'est écrit. Je vous sors. Là, j'ai mis quelques notations sur... Comment?
Les deux articles. Parle de nous dans celui-là.
Tout à fait. Donc, vous pourrez en avoir photocopie de ce que je vous dis. C'est clairement écrit. Les empêcheurs de tourner en rond, les empêcheurs de fonctionner sont majoritairement les syndicats. Ça, ce sont les gens au ministère qui le disent. Ce sont aussi les chefs d'établissement qui le disent. Parce que qui apporte la contradiction dans les conseils d'administration ? C'est les profs. Donc on va trouver un autre fonctionnement. Le nouveau fonctionnement, ça va être de calquer le fonctionnement des EPLE sur le fonctionnement de l'entreprise ou de l'enseignement privé. Qui dit ça ? Globalement, toute la droite, quand vous regardez ce qui se passe au niveau des candidats. Et la gauche. Alors, vous pourrez me dire, il y a la droite dure, il y a l'extrême droite, il y a la droite molle. Bon, mais en tout état de cause, la réalité, c'est celle-ci. On dit quoi ? Il y a deux livres qui sont fort intéressants, qui, un, a été réalisé, écrit par M. Blanquer, l'ancien recteur de l'Académie de Créteil, l'ancien DGESCO, l'actuel directeur de l'ESSEC. Qu'est-ce qu'il dit ? L'ESSEC, l'École supérieure de commerce, comme HEC si vous voulez. Il dit globalement, il faut donner de l'autonomie aux établissements, mais ça ne veut pas dire renforcer la démocratie, ça veut dire donner du pouvoir aux chefs d'établissement. Et c'est là que nous, bien évidemment, on se heurte à une conception, à une philosophie du fonctionnement des bahuts. Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai noté, hein, je vais vous lire très précisément. Le système est déjà profondément inégalitaire. Bon, ça, c'est la légitimité de ce qu'il faut faire pour changer, de ce qu'il y a pour changer. Il n'y a qu'à voir la fuite des élèves vers leur secteur privé. Alors, ça aussi, c'est une stratégie. La stratégie des gens qui proposent, c'est que c'est comme hier Fillon, quoi. C'est, enfin, excusez-moi, je fais un parallèle, Ouais. Quand on écoute, c'est pas possible, quoi. À un moment donné, on dit, je parlerai pas de Fillon. Il n'y a qu'à voir la fuite des élèves vers le secteur privé et les stratégies d'évitement de la carte scolaire mises en place par les parents. Pour inverser les choses, l'idée d'avoir un volume horaire garanti à l'échelle nationale, en français, en mathématiques, et fonctionner ensuite en laissant une autonomie accrue aux équipes pédagogiques pour fixer elles-mêmes la dotation horaire pour les autres matières et mettre en place un vrai projet d'établissement. Cette grande liberté, pour les chefs, peut aller jusqu'au recrutement des professeurs. L'idéal, à terme, est que le chef d'établissement recrute lui-même ses professeurs certifiés sur la base du projet qu'il souhaite mener. Cela signifie que les ressources humaines doivent être gérées à l'échelle locale aux antipodes de la gestion par ordinateur d'aujourd'hui. Donc là, vous avez bien clairement identifié la volonté délibérée, l'idée du fonctionnement futur de l'EPLE. Là-dessus, les chefs, ben je peux vous dire, là-dessus, ils sont contents. Ils sont à 100% pour. Regardez, j'ai dans mon bahut des profs. Dans l'eau, j'en ai un certain nombre qui m'ennuient. Où je suis patient, j'attends qu'ils partent à la retraite, mais mon rêve, moi, c'est qu'on ne me contradit pas. Plus de contradictions dans mes CA. Et pour éviter la contradiction, pour que tout le monde soit d'accord avec moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais recruter mes profs. Ça sera les miens. Je vais leur mettre exactement ce qui m'arrive à moi, et ce qui était prévu avec les établissements Éclair, une lettre de mission. Sur la base de mon projet, pas le projet de l'établissement, on s'en tamponne, c'est mon projet. Donc, je recrute le prof, il doit faire ce que je lui demande, mais si je le recrute, ce que j'arrête pas de dire, c'est que s'il ne fait pas l'affaire, je le dégage. Ah, mais ça, c'est sûr. Et là-dessus, je fais ce que je veux. Dans mon bahut, je considère que globalement, les mômes, ils ne savent pas trop parler le français. Comme dit M. Blanquer. Et encore pire, ils ne savent pas trop compter. Donc, Je suis désolé de vous dire, mesdames et messieurs les professeurs d'éducation physique et sportive, c'est dommage pour vous, parce que le PS, ça va être le cadet de mes soucis. Et donc, les heures de PS, au lieu d'en faire autant, et on va en faire beaucoup moins. Déjà, ça me coûte cher, la piscine, savoir nager, tout ça, terminé. Hop, on va récupérer les heures pour les mettre aux Français. Etc, etc. Qu'est-ce qui va se passer dans les bahuts? Mais il va y avoir la guerre. Il va y avoir la guerre entre les profs. Chacun va essayer de tirer la couverture à soi. Et là-dessus, moi, pendant que vous, vous allez vous casser la figure, moi, je suis dans mon bureau et je compte les points. Et en conseil d'administration, un, il n'y en a pas un qui va moufter parce que c'est moi qui vous ai recruté. Et vous aurez la trouille pour votre job. Et deux, dans le meilleur des cas, vous vous taperez dessus les uns les autres et moi je serai au-dessus de la main. Est-ce que sur le fond, ça changera quelque chose au niveau des résultats des élèves? Moi je pense que non. Je pense qu'en travaillant de manière délétère, dans ce type de climat, on n'avancera à rien. Au contraire, je défends moi l'idée d'une équipe, où chacun est à sa place. C'est-à-dire, moi, je ne dis pas aux profs, mes chers collègues, là, il ne faut pas déconner, ce n'est pas mes collègues, vous n'êtes pas mes collègues. Je dis éventuellement mes chers collègues à un autre chef d'établissement, et éventuellement, comme on est en concurrence, de toute façon, ça ne risque pas. Donc, chacun est à sa place, chacun fait son job, mais il n'y a pas de petite place. Moi, je dis, c'est comme les maillons d'une chaîne. Quand on fait de la voile ou quand on navigue, on jette l'ancre. Si jamais il y a un maillon qui pète, on s'échoue. Donc chacun doit avoir la mission qui lui est assignée et doit avoir pleinement la confiance de tous pour pouvoir assumer à bien sa mission. Le travail émancipateur, le plaisir dans le travail. Mais attendez, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé au bahut en souriant et avec le sourire et la satisfaction? On en a peu globalement, mais à tous les niveaux. Hein. On nous en demande de plus en plus, on n'est pas en capacité de faire tout ce qu'on nous demande. Mais vous, les profs, comme moi, le chef, c'est clair. Donc à un moment donné, le nouveau management public fait qu'on nous met dans une situation où nous sommes dans l'impossibilité totale de faire tout ce qu'on nous demande, où on nous en demande de plus en plus, où la part de l'électronique, ce que j'appelle la part de l'électronique, du numérique, de l'informatique prend le plus en plus. Regardez même moi là, j'ai même pas pensé à fermer mon truc, c'est deux fois on m'appelle là, j'espère qu'il n'y a pas le feu dans mon bahut. Et alors il y a le feu. Ben, attendez, mon adjoint, il appelle les pompiers. Est-ce qu'il a besoin impérativement d'être relié toutes les deux minutes à moi pour que je lui dise ce qu'il doit faire? La réponse est non. On a revendiqué au niveau du SNUPDEN le droit à la déconnexion. Est-ce qu'il est normal? Moi, je vous raconte, c'est une anecdote, mais il y a un prof qui pète un plomb dans mon bahut à 8h le matin parce qu'il n'a pas eu ce qu'il avait demandé la veille au soir à 23h. Bon, le dimanche soir, il écrit au bahut, il écrit en demandant, je ne sais plus quoi, un truc pour 8h moins le quart, nous on commence à 8h moins le quart. Mais moi, je n'étais pas pendu à mon courrier électronique. Donc, je pète les plombs. Je dis qu'il y en a ras-le-bol de ces profs qui sont il y en a marre que je suis à leur service, tout ça. Puis, au moment que je le dis, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Mais moi, je fais la même chose. C'est pas dimanche soir à 23h, mais c'est le soir, parce que j'ai pas le temps de traiter mes mails. Donc, j'envoie des mails à 20h, à 21h, à 22h. Et puis, bref, mais on est complètement pris par notre travail. Il faudrait qu'on n'arrive plus à faire. La part du professionnel prend le plus en plus de place sur le personnel. Et à un moment donné, la satisfaction dans le travail, on ne l'a plus parce qu'on est tout le temps en train de bosser. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. L'autonomie, c'est pas avoir moins de boulot, c'est d'avoir plus de contraintes. Le chef d'établissement. Alors, je parlerai de Bernard Tout le Monde tout à l'heure. Monsieur Tournier. Monsieur Tournier, vous ne le connaissez pas, Philippe Tournier, c'est le secrétaire général du SNPDEN. Bon. Il fait deux conférences le 25 janvier. Il invite Monsieur Blanquer et Monsieur Tout le Monde. J'en parlerai de Bernard Tout le Monde tout à l'heure. C'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'il invite le SNPDEN, qui est le syndicat majoritaire des chefs d'établissement, invite les deux chambres de l'autonomie des établissements à une conférence. Et qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Tournier? Je vous lis. On dit que la méthode employée depuis 30 ans s'avère inefficace. Tiens, déjà entendu quelque chose. L'école est constamment en réforme. On vit dans un climat de psychodrame larvé et à l'arrivée, on a les résultats que l'on a. Il y a des choses qui doivent rester à l'échelon national, comme les programmes ou la méthode de certification des niveaux. Pour le reste, on n'a pas besoin de niveau national. Je vous le refais. Je vous le refais. À l'échelon national, on garde les programmes, la méthode de certification. Pour le reste, on n'a pas besoin de niveau national. C'est exactement ce que Blanquer dit. Exactement la même chose. C'est-à-dire, on va garder les programmes, mais on ne parle pas des heures là-dedans, par discipline. Non, on n'en a pas besoin. On va filer le package au chef d'établissement qui, lui, va répartir. C'est comme ça que les choses vont se passer. Et puis, je vais recruter, moi. Moi, je vous dis, en tant que chef d'établissement, je n'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire. On a plus de responsabilités qu'on ne peut en assumer. On revendique, nous, le fait de ne pas, non seulement, on en voudrait moins, et pas abandonner la présidence de l'AS, et ce qu'on voudrait également, c'est de ne pas en avoir plus, parce qu'on ne pourra pas les assumer. Demain, je recrute les profs. Mais attendez, je dois déjà recruter les assistants d'éducation. Quel merdier! Je suis désolé de le dire, il n'y a pas d'autre terme. On ne s'en sort pas. On passe des heures. Les CUI, même chose. Et si demain c'est les profs, sur quelle base? Ça, c'est un. Il y aura un autre problème, c'est que dans des établissements. Il y a des établissements, Louis le Grand, le chef de Louis le Grand, à mon avis, quand il va mettre recherche prof de français, mais vous allez avoir, bam, bam, même prof de PS, on va dire, va avoir. Mais quand vous êtes dans le 93, au fin fond du 93, à Stein ou je ne sais où, enfin je veux pas. Vous allez dire recherche prof de PS, tiens, vous allez voir un peu ce que vous allez avoir. Et là-dessus, on nous dit, les parents, ils choisissent, ils essayent de déroger à la carte scolaire. Mais force, ça va être pire encore. On va avoir des établissements de relégation et puis on va avoir des établissements de prestige. Et dans les établissements de relégation, on aura forcément des profs qui arriveront. Alors, c'est un peu ce qui se passe dans certains départements de notre académie, malheureusement. On aura tous les nouveaux qui arriveront, parce qu'il faudra bien les mettre quelque part, parce qu'ailleurs, ils n'auront pas été pris. Alors, vous imaginez, je viens de réussir mon concours. J'ai postulé à Louis Legrand, j'ai postulé à Henri IV, j'ai postulé, et puis on me dit partout qu'on ne veut pas de moi. Eh, ça va être cool pour arriver dans un bahut et bosser que là où on me veut, c'est-à-dire que là où on ne m'a pas choisi. Ah, l'idée de moi-même, ça va être joli, joli, hein. Qu'est-ce qui va se passer avec les mômes? Exactement la même chose. Parce que le recteur Blanquer qui demande à ce qu'il y ait plus d'autonomie sur les chefs et le recrutement de la même manière, lui, il était pour l'évaluation, parce que moi j'ai quand même assisté à des colloques qu'il avait mis en place avec l'inspection générale dans cette académie, où il prenait l'évaluation des unités d'enseignement. Il disait les unités d'enseignement doivent être évaluées, puis ensuite, ce n'est pas les résultats, hein, Et ensuite, le résultat de l'évaluation par des corps d'inspecteurs devrait être publié, il devra être fait publicité, de telle manière que les parents puissent se prononcer pour scolariser leur enfant dans tel et tel établissement. C'est-à-dire quand on aura des établissements de relégation. Nous, et on vous dit là-dessus, non mais c'est pour l'égalité. Nous au SNUPDEN, on a dit, ok, ça marche, banco. À partir du moment où les profs de Louis le Grand, ils seront tous d'accord pour aller à Stein, et que les mômes et les parents qui vont à Louis le Grand, ils seront tous d'accord pour aller à Stein, ben nous, on est d'accord. Mais tant que ça, c'est pas arrivé, ben on met quand même quelques réserves. Et là-dessus, on a Bernard Tout-le-Monde. Alors, Bernard Tout-le-Monde, vous le connaissez également, inspecteur général de l'éducation nationale. Eh bien, lui, donc, il a fait un livre qui s'appelle « Et si on tuait le mammouth ?» Si on tuait le mammouth. Eh bien, il est exactement dans la même lignée. Donc, je pourrais vous en relire des passages de son bouquin. Il prône une autonomie accrue du chef d'établissement. Nous, on dit, on est chef. Et nous, on dit, on va vers une catastrophe. Pourquoi on va vers une catastrophe ? Parce que le chef d'établissement ne pourra pas assumer ce qu'on lui demandera de faire. Ce ne sera pas possible. On va vers une explosion des bahuts. Déjà, on aura une explosion entre les personnels, ça vous l'avez compris, et une explosion des personnels contre le chef. Parce qu'à un moment donné, les gens vont se taper dessus. Moi, j'ai dit, pour une DSG, c'est facile. Moi, j'ai une possibilité pour la DSG. Je prends ma DSG, je l'affiche en salle des profs, je réunis tous les profs, je ferme les portes et je les rouvre 2 jours plus tard pour voir comment la répartition est faite. Je sais qu'il y aura va remporter la majorité des heures. Globalement, c'est les profs de PS, ils sont plus costauds que les autres. Bon. Mais on ne peut pas faire ça. Pour garantir l'équité sur le territoire.
Il note le mandat.
Pour qu'il y ait l'équité sur le territoire, il y a un impératif absolu, c'est de donner sur tout le territoire français les heures dans toutes les disciplines. Parce qu'il y a la référence au diplôme, enfin il y a les programmes bien sûr, mais il faut effectivement que sur tout le territoire il y ait le même nombre d'heures et qu'il y ait un quota, un paquet en plus, mais en plus, pas en moins. Mais l'autonomie, elle ne se situera jamais comme ça. Elle sera soit moyen constant, soit avec des moyens en régression. Et puis au bout du bout, si je recrute les profs, on va me donner un certain nombre de choses, moi. On va me donner des sommes, ce qui était prévu au départ. Ce que vous voyez maintenant, parce qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Quand vous avez le budget de votre bahut, vous êtes en CA, on vous présente le budget du bahut, et puis maintenant on vous présente la masse salariale. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais ce n'est pas un hasard, Ça on ne l'avait jamais avant. Parce qu'il est prévu, et ça fait longtemps, qu'à un moment donné, on donne au chef d'établissement la masse salariale. Et que le chef d'établissement, il fasse des choix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment donné, le chef d'établissement, il sera amené à choisir s'il recrute un agrégé ou 2 certifiés. À peu près, au lieu de 2 agrégés, 3 certifiés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que devant les parents d'élèves, on leur dira, mais vous savez, au lieu d'avoir 35 mômes avec l'agrégé par classe, on pourra en avoir que 20. Parce que le certifié, on le paye moins cher. Là-dessus, je ne sais pas si les parents d'élèves, ce qu'ils voteront. Est-ce qu'ils ne seront pas d'accord avec le chef qui fera le choix, à un moment donné, d'embaucher les certifiés ? Bref, on organise le fonctionnement de l'éducation nationale sur un système qui sera calqué sur celui de l'entreprise. Et sur le fond, l'ancien directeur de l'ESSEC avant M. Blanquer, M. Motis, Nicolas Motis, il dit ça ne peut pas fonctionner comme ça. Quand Bernard Tout le Monde il dit qu'il faut payer, l'évaluation du mérite. Alors je vous le dis, hein, suppression des grilles d'avancement, remplacement, remplacé par l'évaluation au mérite, etc. C'est ce qu'on connaît, nous, déjà, les chefs d'établissement, la prime au mérite. On fait croire aux gens que lorsqu'ils vont appliquer exactement ce qu'on leur dit de faire, ils vont toucher une rémunération supérieure. Mais nous, depuis le début, on a dit qu'on n'était pas d'accord avec ça. Et la réalité, c'est quoi? Je vous le dis, je n'ai pas les chiffres là, je n'ai pas mon ordinateur, je pourrais vous les projeter, mais la prime au mérite, la part R, résultat des chefs d'établissement, on a l'IF2R, l'indemnité de fonction de responsabilité et de résultat. Cette prime au mérite, on se rend compte que 80% des chefs, ils ont ce qu'ils doivent avoir, ni plus ni moins, globalement, ils font le boulot, mais que il y a plus de mauvais chefs que de bons. C'est-à-dire que sur la France entière, il y a 3 chefs sur toute la France entière qui ont eu le maximum de la prime, c'est-à-dire 6 000 euros. Et il y a eu 15 chefs qui ont eu 0. Ça veut dire que globalement, on a eu en France, il y a 3 mecs, 3 nanas, qui sont là à 6 heures du matin pour réceptionner les marchandises, qui à minuit sont encore au boulot, qui font tout, même passer le balai, qui se défoncent à fond, j'imagine, puisqu'ils sont méritants. Et puis, il y a, de l'autre côté, il y a 15 abrutis qui sont jamais dans leur bahut, qui font les courses à Intermarché ou je sais pas quoi. Et puis, et moralité. Qu'est-ce qui vaut mieux? 6 000 euros à se casser le tronc comme c'est pas possible pendant 3 ans, ou 0 et rester tranquille dans son appart de fonction. Ben Nicolas Motis, lui, l'ancien directeur de l'ESSEC, il disait que la prime au mérite pour les fonctionnaires ne pouvait pas marcher. Voilà ce que je... puisqu'on me demande de conclure, c'est vrai que je peux être très très... Donc, on va passer aux questions si vous voulez, mais ce que je veux vous dire, c'est que ne faut absolument pas tomber dans le piège qui nous est tendu. Il faut bien comprendre les enjeux. S'il y a des disciplines qui ont bien à perdre quelque chose, c'est bien celle de l'EPS. Ce qui s'est passé au niveau du collège le montre. Donc voilà ce que je vais vous dire. Et j'ai une petite chose à rajouter sur l'UNSS, j'avais dit que je parlerais de l'UNSS. Là aussi, il y a des enjeux qui sont gravissimes. On essaye de se battre. Il y a eu une campagne du SNPDEN hein, pour que les chefs d'établissement ne soient plus les présidents des AS. Et là-dessus, ils ont roulé sur du velours parce que les chefs, ils ont tellement de boulot qu'ils se sont dit « Mais si je peux me débarrasser de ça, mais pourquoi pas ?» Ils n'ont pas vu l'enjeu de société. Ils n'ont pas vu l'enjeu sur les pratiques du sport féminin. Tout ça, mais ils ne le voient pas. Et même s'ils le voient, de toute façon, si on peut leur proposer de bosser un petit peu moins, pourquoi pas ? Là-dessus, avec le SNPDEN et Petrinka, ils ont créé une commission annexe, en dehors de toute, pas de légalité, mais de chef d'établissement, je ne sais plus comment ça s'appelle cette fameuse commission, un groupe de réflexion des chefs d'établissement pour le fonctionnement des AS, et on s'oriente vers une présidence qui serait la présidence par les parents d'élèves. C'est ça aussi qui se joue. Et là-dessus, comment ?
C'est sur la gouvernance.
Et là-dessus, il faudra être extrêmement vigilant. Il y a une réunion bientôt des chefs d'établissement le 10 et le 11 mars. Et puis, moi, je fais... c'est une des bonnes nouvelles dans l'académie. Donc, je suis le représentant des chefs d'établissement de l'académie. Donc, au moins, ça, c'est quand même, pour une fois, une bonne nouvelle. Donc, il n'est pas question que je rentre là-dedans. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous, on nous demande, les chefs d'établissement, de rentrer dans des questionnaires. Je pourrais vous en faire des photocopies. Je pense que pour le SNEP, vous seriez très, très content de voir ça. On nous demande de faire de rentrer dans les propositions de Petrinka. Il n'est pas question de ça. Il est plutôt question de parler des forfaits d'AS. Les problématiques du forfait, mais ça, on n'en parle pas. Donc, à vous aussi, au SNEP, vous êtes suffisamment puissant pour, comment dire, exiger que la présidence des AS continue à être celle des chefs d'établissement. Je rappelle que vous êtes payé par l'État. Et donc, il serait quand même, je le dis bien, scandaleux qu'à un moment donné, des parents d'élèves, ils président une association dont les membres seraient payés par l'État. C'est pour moi totalement inconcevable. Et puis, je reviens maintenant, parce qu'on parle de présidence, je reviens sur l'autonomie, et ça sera ma conclusion. Il est question également, quand vous regardez les programmes de la droite, que le chef d'établissement n'ait plus la présidence des conseils d'administration. Donc là-dessus, nous, on a un mandat qui est clair au niveau du SNUPDEN, c'est qu'on revendique de garder la présidence des conseils d'administration, parce qu'il ne faut pas croire que le président du conseil d'administration, ce sera quelqu'un d'élu. Ce sera obligatoirement un payeur. Et le payeur, ce sera le représentant de la région, bien évidemment. Et ça créera un échelon supplémentaire entre le chef d'établissement et les autorités hiérarchiques que sont l'inspection académique et le rectorat. Et donc, on perdra obligatoirement, entre guillemets, de l'autonomie réelle. Voilà ce que je peux vous dire. Je suis prêt à répondre aux questions. Il y en avait... Il y a la dame sur le côté qui...